Chapitre 6e, La main rouge. Martin Nummel laissa s'écouler quelques secondes après l'entrée des hommes dans la bibliothèque, puis il me dit seulement « Faites comme moi, rampez derrière moi. » Sur les mains, sur les genoux, comme à quatre pattes, sur le ventre plutôt, il se mit à s'avancer sur la terre. Mais au lieu de prendre le chemin, il continua de marcher sous les massifs, sous les arbres, ne quittant pas le terrain brun, où la couleur de notre équipement se trouvait, sans contraste, par là moins visible. Nous allions comme dans les livres d'aventure, où l'on nous dit que les Indiens marchent sur le fameux sentier de la guerre. Arrivé au bas de l'escalier de pierre où se trouvaient les draps blancs des fantômes, Martin Nummel me dit seulement « Hop !» Il bondit et se plaça le long du mur devant la porte vitrée entr'ouverte. Je fis de même et je pris place de l'autre côté. D'un coup de pied, Martin Nummel rejeta au loin les draps blancs des fantômes, et tendant l'oreille par l'entrebâillement de la porte, il écouta. J'admirais le sang-froid, le courage merveilleux de cet homme. En effet, il risquait tout bonnement sa vie. Si l'un des hommes qui était entré dans la pièce se tenait près de la porte pour faire le guet, protéger son camarade pendant que celui-ci opérait, il pouvait, sans crainte de le manquer, tuer Martin Nummel d'un coup de poignard ou lui brûler la cervelle. J'avoue qu'à ce moment mon cœur battait à tout rompre et que ma gorge se serrait d'angoisse. C'est sans fausse honte que je reconnais ce moment, non de peur, mais d'émotion. Je sentais que ce fameux cliché « il y a du drame dans l'air » dont je m'étais, comme tous mes confrères, souvent servi en plaisantant, pouvait parfois être tragiquement vrai. Réellement, j'avais l'impression que la mort planait sur cette maison, encore silencieuse et sombre. Mais qui donc allait-elle frapper ? Cette minute poignante me semblait infinie. Je souhaitais voir finir cette attente émouvante. Je voulais arriver au drame, au meurtre qui ne pouvait manquer de suivre. Il me tardait de voir bouger, remuer, d'entendre un cri, de percevoir la flamme prompte d'un revolver, l'éclair d'une lame de poignard. Mais Martin Nummel, toujours immobile, écoutait encore, plongeait son regard dans la pièce, cherchait sans doute à percer cette obscurité qui régnait dans la bibliothèque. Il était doué, lui, d'yeux de lynx, de chat. Il pouvait voir dans la nuit, et pour percevoir le moindre bruit, ses oreilles n'avaient pas besoin de microphone. Enfin, il poussa doucement la porte. Il la fit, comme les autres tout à l'heure, tourner sans grincement, sans bruit. Il pénétra dans la pièce. Derrière lui, j'y entrai aussi. Il m'entraîna dans un coin sombre. « Restez là, » me dit-il. Par la large baie, une sorte, non de clarté, mais de teinte moins sombre que la nuit, tombait sur la moitié de la grande pièce. C'était moins que la classique obscure clarté qui tombe des étoiles, mais comme un reflet de la blancheur de la neige. Martin Nummel se tint en dehors de cette lueur de grisaille, et je le perdis de vue aussitôt, je ne l'entendis plus. Et dans cette nuit, dans ce silence, je n'osais ni bouger, ni respirer, mais je sentais mon cœur et mes tempes battre si fort qu'il me semblait qu'on devait les entendre, comme si l'on frappait des coups à la muraille. Depuis peu, Mars avait cessé de donner de la voix. Le silence était absolu dans la maison. Tout à coup, j'entendis comme un bruit sourd, assez semblable au coup porté par un poing muni d'un grand box. Des pas sur le tapis, puis un éclair de lampe électrique portative, un cri. « Martin Nummel !» Dans la rapide clarté, je pus voir cependant Martin Nummel tenir dans ses bras un des hommes. Il y eut là une lutte terrible, silencieuse encore, effroyable dans la nuit. J'entendais la respiration de plus en plus haletante des deux combattants, léant que dans la dépense de force, dans la lutte, leur poitrine laissait sortir. Puis ce fut la chute sur le tapis. Le duel se poursuivit, plus affreux, implacable. J'entendis enfin la voix de Martin Nummel. « Misérable » fit-il en parlant, les dents serrées, dans la lutte. « Misérable !» Presque aussitôt, je perçus comme un craquement de membres, un os qui se brise, et un cri affreux, un cri de douleur épouvantable, qui n'avait plus rien d'humain, cri de bête blessée. Alors, à l'étage supérieur, les aboiements de Tintin résonnèrent, furieux. Le chevalier Fontis cria « Hardi, Tintin !» Des pas de gens qui couraient retentirent, une poursuite se faisait par la maison. Martin Nummel me cria « De la lumière, Courville, de la lumière! Le bouton, là où vous êtes, à droite, près de la cheminée, vite, de la lumière !» J'avais vu en effet le chevalier, ces jours-ci, s'en approcher pour allumer les lampes électriques de la bibliothèque. Je le cherchais dans la nuit, vivement, des deux mains, croyant ne pas aller assez vite, ayant peur de ne pas le trouver. « De la lumière, Courville !» me répéta Martin Huma. « Vite, mon ami, de la lumière !» Enfin, ma main rencontra le petit rond de porcelaine, le bouton. Je tournai vivement, et la bibliothèque fut inondée de clarté. Je courus à Martin Huma. Il était à terre, mais il tenait avec ses deux mains, ramené fortement sur sa poitrine, le bras gauche de son adversaire, couché à terre lui aussi et aux pieds du policier. Martin Huma avait employé pour venir à bout de cet homme le terrible coup, le fameux armlock des jiu-jitsu en japonais. « Je le tiens, » me dit seulement mon ami, quand je m'approchais de lui. « Je le tiens bien. » En effet, l'homme ne bougeait plus, il était évanoui. Martin Huma lui avait, par l'armlock, déboîté l'épaule et cassé le bras. Mais je vis presque aussitôt que Martin Huma avait dans la cuisse droite plantée, enfoncé jusqu'à la garde, un poignard. « Vous êtes blessé ?» lui dis-je. « Oui, ce n'est rien. Ne nous en préoccupons pas. » Comme l'adversaire ne bougeait pas, Martin Huma se dégagea, laissant retomber le bras inerte de ce malheureux sur le tapis. Il se leva péniblement, arracha le poignard de la plaie. « Il a voulu me frapper au ventre, » me dit-il. « J'ai paru le coup avec la cuisse. Je vais arranger cela. » « Nous n'avons pas fini de travailler, ici. » Avec un mouchoir, il se fit par-dessus le pantalon un bandage qu'il serra fortement et il remua la jambe plusieurs fois. « Ça va, » dit-il, « ça peut aller. » À ce moment, par l'escalier qui reliait la bibliothèque aux appartements du chevalier, descendit en courant le second homme au costume gris. Celui-ci avait non seulement un poignard à la main gauche, mais à la droite un revolver. Quand il vit la lumière dans la pièce, il hésita une seconde, s'arrêta sur les marches de l'escalier. Mais derrière lui, accouraient Tintin et le chevalier Frontis, qui suivaient le chien. L'homme m'aperçut d'abord. Il braqua sur moi son revolver tout en reprenant sa course. Que se passa-t-il alors? À présent, je m'en rends compte. Martin Huma vit le revolver qui me menaçait à 5 pas à peine, qui allait me tuer. J'en eus moi-même la vision. Martin Huma, dis-je, à cet instant, me donna un coup de poing qu'il seconda d'un croc en jambe. J'allais rouler à terre, contre le mur de la bibliothèque. Et la balle qui fatalement devait ne pas me manquer alla fracasser une glace qu'elle fit bruyamment voler en éclats. Un second coup de feu retentit, mais Martin Huma bondit sur cet homme qui tirait dans ma direction. D'un revers de main, il lui fit lâcher le revolver qui tomba à terre. Cependant, Martin Huma ne put cette fois comme il l'espérait, plus tard il me l'expliqua, se saisir de son nouvel adversaire de même qu'il avait fait avec le premier. Sa blessure de la cuisse le gênait fortement et contrariait ses mouvements, lui enlevait de la souplesse, de l'assurance. L'homme qui, sans cela, eût été pris, parvint à lui échapper. Il fit en courant le tour de la bibliothèque pour gagner la porte. Mais devant cette porte se trouvait déjà Martin Huma. Cette fois, c'était lui qui tenait en main son revolver. « Halte ! » cria-t-il. « Halte ! » L'homme, devant la menace de l'arme, s'arrêta. Il sentait que son poignard était inutile devant ce revolver, et il voyait au regard du policier que le coup de feu ne le manquerait pas. À ce moment, Tintin entra dans la pièce comme un fou, l'écrou hors des lèvres, voulant mordre. Il tomba sur l'homme évanoui et se jeta sur le bras brisé dans lequel il planta ses dents pointues et solides. Mais le chevalier Fontis était arrivé dans la bibliothèque. Il tenait lui aussi en main un revolver. Moi-même, je m'étais relevé, pas mal endolori toutefois, et j'avais mon arme à la main. L'homme se trouva ainsi entre 3 menaces de mort. Il comprit que toute résistance était impossible, que toute chance de fuite lui manquait, qu'il se trouvait fatalement pris. Je dois dire qu'il fut à ce moment vraiment beau, qu'il eut une attitude superbe. Il nous jeta à tous 3 un regard de haine, puis croisant les bras sur sa poitrine, d'une voix calme, d'un ton hautain plein de bravoure. « C'est bien, » fit-il, « tuez-moi. » Mais le chevalier nous cria « Halte, ne tirez pas, cet homme m'appartient !» Martin Huma, cependant, tenant toujours cet homme sous la menace de son revolver, s'approcha de lui et, au risque de recevoir dans un mouvement brusque un coup de poignard, lui saisit la main armée. « Maintenant, oui, » dit-il au chevalier, « maintenant, cet homme est à vous. » Le chevalier donna un ordre à son vieux serviteur accouru. Le vieillard, non sans peine, parvint à détacher Tintin du corps du blessé sur lequel il s'acharnait et à l'emporter, se débattant comme un possédé, aboyant de toutes ses forces. Alors le chevalier, s'adressant à Martin Huma, lui dit « Monsieur, je reconnais la louable intention de votre intervention dans cette affaire, mais je le regrette de vous dire que votre présence à cette heure chez moi me déshonore. » Connaissant la pensée et le caractère du chevalier, Martin Huma ne répondit pas ne bougea pas, ne laissa sur son visage impassible et glacé deviner aucun sentiment. « J'ai été assez courageux, » reprit le chevalier, « assez grand pour me défendre moi-même, moi seul. » Puis, se tournant vers l'homme, il ajouta « Je vous prie de me faire l'honneur de croire que je ne me faisais pas garder par la police. » L'homme, silencieusement, s'inclina. Le chevalier avait jeté son revolver sur son bureau. Moi, j'avais abaissé le mien, et Martin Huma remit le sien dans sa poche, mais il gardait sa main dans la poche. À présent, ne semblant plus tenir compte de la présence de mon ami ni de la mienne, le chevalier Fonti se tenait en face de l'inconnu. Longuement, les deux hommes se regardèrent, s'étudièrent, tinrent leur regard dans les yeux l'un de l'autre. Puis le chevalier, d'une voix posée, comme s'il eut affaire à un visiteur quelconque, commença « Je vous fais cette grâce de croire que vous n'êtes pas un voleur. Merci. Sans cela, je vous eusse tiré dessus. Ce n'est donc pas pour voler que vous vous introduisiez chez moi, c'est uniquement pour me tuer. Pour vous tuer, en effet. Et sans doute, ces lettres de deuil, ces croix que je trouvais chez moi devaient m'avertir de votre intention. Parfaitement. Vous êtes, je le gage, chargé de cette sinistre besogne par cette association dont cette croix est le signe de ralliement. » Et qui m'a fait entendre que je devais me taire. Vous avez compris notre ordre? Seulement, je n'ai d'ordre à recevoir de personne et personne ne pourra me faire taire. Nous le savions. Je vous remercie de votre opinion à mon égard. Donc, c'est parce que vous saviez que je ne me tairais pas que vous avez voulu m'empêcher de parler en me coupant la gorge. Le moyen est bon, en vérité, mais l'exécution est peu commode. Je le vois. Bien. Je n'ai pas à vous apprendre si j'ai parlé déjà. Si je puis dire quoi que ce soit, étant maître de mes paroles autant que de mes actes, ayant informé votre société que je ne tiendrai aucun compte de ses avis. » L'homme s'inclina. Ceci posé, pour dégager ma conscience et vous exprimer de vive voix ma volonté, il convient de mettre un terme à cette scène. Vous êtes chez moi. Veuillez me faire connaître votre nom. Je suis le baron Pompéré. Le chevalier tressaillit. « C'est bien cela, » fit-il. « Le baron Pompéry, un ami de la Focamore. J'ai cet honneur. Un ennemi de mon bon et loyal ami, le comte di Villacerboli. » Le chevalier alors s'écria « Que vous avait-il fait, ce noble et général Lio, pour que vous ayez voulu l'assassiner ?»« Pardon, » fit le baron, « mais vous, chevalier Fontis, qui ne voulez pas vous taire, malgré nos ordres, vous comprendrez que je ne réponde pas à votre question. » Le chevalier, après un court silence, poursuivit « Ainsi donc, après Villacerboli, c'est moi que vous voulez tuer. Mais moi, je n'ai pas la misérable enchanteresse à mes côtés, et je me garde. Je me garde et je désire en outre venger mon ami, votre victime. » Et venant au baron qui l'écoutait, impassible, « Allons, baron Pompéry, préparez-vous à défendre votre vie, car de cette maison, votre cadavre ou le mien seulement sortira. » Le chevalier alors se dirigea vers sa panoplie. « Étant gentilhomme, dit-il, avant d'être un assassin, vous avez dû apprendre à manier l'épée. »« Je sais manier l'épée, » répondit le baron. « C'est bien. » Le chevalier décrocha deux épées. « Elles sont égales, » fit-il en les montrant au baron. « Elles forment la paire. » Il en prit une par le milieu de la lame, et l'élevant jusqu'à sa figure, respectueusement, avec vénération. « Pardon, » dit-il, s'adressant à l'épée. « Pardon. Arme noble et loyale. » De te mettre pour quelques instants dans la main d'un homme qui manie le poignard, arme des traîtres et des lâches, arme de déshonneur, dans la main d'un homme qui venait se livrer à l'assassinat. » Le baron s'écria, frémissant, « Chevalier, vous avez le droit de me tuer, mais vous ne devez pas m'insulter. » « Je pourrais vous tuer, c'est vrai, vous tuer comme un voleur. Et je vous fais cependant l'honneur de vous traiter en gentilhomme. Mais j'ai le droit, je pense, de demander pardon à une arme que je mets dans votre main. » Qui tenait un poignard, une main qui la déshonore, une main qui s'est ruffianisée. Il faut, baron, avoir le respect de ces armes, qui d'elles-mêmes ne peuvent faillir à l'honneur. » Puis, ayant fait un pas vers le baron Pompéry, « De ce duel, dit-il, voilà les témoins. Vous voudrez bien accepter comme témoin M. Courville, homme de lettres. Je prends moi M. Martin Huma, que tout à l'heure j'ai peut-être offensé. » Le baron et moi nous échangeâmes un salut. Martin Huma salua de même le chevalier. Alors le chevalier tendit, la tenant par la lame, une épée au baron Pompéry. Je vis dans les yeux de mon client à ce moment briller un éclair. Dès qu'il eut en main la poignée de l'épée que lui tendait le chevalier, qui ainsi gardait tournée vers lui la pointe de l'arme, le baron poussa une sorte de rugissement féroce et il bondit, le bras tendu, l'arme droite, la pointe en ligne sur le chevalier. C'était un coup absolument déloyal, un acte de la plus haute traîtrise, un véritable assassinat. Car le chevalier n'était pas en garde, n'était pas armé, ne pouvait se défendre, parer ce formidable coup d'épée. Si le coup de pointe n'arriva pas, ce fut grâce à un hasard. Je vis l'épée du forban, dirigée sur la poitrine du chevalier, passer au-dessus de son épaule et voler en l'air pour aller tomber plus loin, et j'entendis un coup mat qui étouffa un cri. Le baron recula alors, fou de rage, d'épouvante. Il porta la main à sa figure et la retira pleine de sang, puis il cracha ses dents avec de la bave rouge sur le tapis. Martin Huma, avec son adresse, son agilité extraordinaire, avait d'une main fait sauter l'épée du baron et de l'autre porté un coup de poing dans la figure du traître. Le poing de Martin Huma était terrible. Le détective alors dit au chevalier Frontis, avec une colère qu'il avait peine à contenir, « Allons, assez de générosité avec ces gaillards. Ils relèvent non de votre chevalerie, non de votre épée de gentilhomme, mais de mon ministère et de mes menottes. Ce sont des tigres et vous les traitez en lions. » Le chevalier eut un sourire. « Je ne peux mépriser cet homme après cet acte, plus que je ne le mépriserai quand il tenait son poignard. J'ai accordé à cet assassin de défendre sa vie. Il a voulu une seconde fois m'assassiner, qu'il se défende doublement, voilà tout. » Et du doigt, il indiqua au baron l'épée à terre. « Allez ramasser votre arme, » dit-il simplement. Le baron se baissa, ramassa son arme et revint comme un fou vers le chevalier. Cet homme avait sur la figure comme un masque de sang. Il était épouvantable. Il bondit, poussant des cris de fureur et de haine. Il cherchait à tuer, mais le chevalier avait maintenant son arme à la main, et la rage du baron s'arrêtait comme devant une muraille d'acier. On ne passait pas au-delà de sa pointe. Mais tout à coup, le baron, qui faisait des battements terribles pour chasser cette pointe, sans cesse menaçante, poussa un cri de triomphe. Il se fendit, bondit plutôt, et vint toucher le corps du chevalier. Son épée, du coup, s'enfonça jusqu'à la coquille. Je poussai malgré moi un cri de terreur, d'effroi. Je croyais le chevalier percé de part en part. L'épée du chevalier s'était brisée sur la coquille de son adversaire au cours d'une attaque, et le baron, au lieu de s'arrêter comme la simple loyauté le commandait, profitant de cet accident, avait foncé sur le chevalier, en somme désarmé. Martin Huma, cette fois, ne put arrêter le baron dans son bond que quand l'épée du misérable fut passée de l'autre côté. « Ce n'est rien, » dit le chevalier. « Rien, messieurs, j'ai seulement le bras gauche traversé. » Par un de ces bonheurs qui ne se voient qu'en duel et qui étonnent les plus forts escrimeurs, le chevalier avait d'instinct fait un passasotto, un écart en pivotant sur le talon. L'épée du baron, au lieu de rencontrer le corps, s'était perdue dans le gras du bras gauche. Martin Huma repoussa le baron. Celui-ci ne lâcha pas son arme et la sortit toute rouge de la blessure. Mais le détective, pour éviter toute nouvelle forfaiture possible avec un misérable comme celui-ci, maintenant que le chevalier était encore désarmé, tenait en respect le baron au bout de son revolver. « Un mouvement !» fit-il, « et malgré le chevalier, je fais feu !» Cependant, le chevalier Frontis m'écarta doucement de la main comme je lui offrais mes services. « Ce n'est rien, je vous assure. C'est mon épée qui a voulu se laver dans mon sang de l'injure que je lui faisais en la confiant à cet homme. » Toujours admirable de calme et de bravoure, il remit à la panoplie et décrocha une autre épée. « La lame est d'égale longueur, » dit-il au baron. « Cette épée diffère de la vôtre en ceci seulement, que la main loyale de mon père seule la mania, et que dans le sang d'un traître, elle fut déjà trempée. » Et revenant face au baron, « Allons, monsieur, » dit-il. La bataille recommença, terrible. On entendait le bruit rauque de la poitrine des deux combattants. Ce fut une lutte admirable, comme peu de personnes dans la vie pourront en voir de pareilles. Ce fut un duel incroyable. Mais je remarquai que le baron, tout en frappant fort, car il semblait extrêmement vigoureux, n'attaqua plus à fond, comme à la première reprise. Je compris qu'il voulait fatiguer son adversaire et qu'il comptait sur la perte de sang, qu'il espérait le voir s'affaiblir bientôt et devenir, pour l'une de ses attaques formidables, une proie facile. Fort heureusement, le chevalier était un escrimeur de première force. Il connaissait toutes les ruses du duel, et il ne donna pas dans ce nouveau piège. Il s'apercevait aussi, mieux que son adversaire, que sa résistance allait diminuant, que peu à peu il se trouverait en état d'infériorité, que fatalement, au bout d'un certain temps, le baron aurait l'avantage. Alors il ne se contenta plus de parer. Il fit appel à toutes ses forces et se départit de la prudence, tant recommandée et souvent fatale, pour activer le combat, le rendre aussi terrible que rapide, garder seulement l'attaque. Il fallait une solution prompte, c'était désormais sa seule chance de salut. Abandonnant l'antique jeu de parade et de riposte, il passa à la tactique moderne de l'attaque incessante. Bien lui en prit. À son tour, le baron, ne pouvant plus attaquer, dut se contenter de se défendre, n'ayant plus qu'une chance rare de placer une bonne riposte entre deux attaques. La parade étant déjà un état d'infériorité, la riposte, fille de la parade, n'est que rarement bonne, l'épée à la main. Le baron évidemment connaissait admirablement l'antique jeu de fleuret, tout de convention. Le chevalier avait travaillé davantage l'épée de combat. Il était supérieur dans le combat réel. Mais le baron était en meilleur état de résistance, et l'ardeur des deux adversaires était égale, leur courage se valait, les chances étaient au même degré pour tous deux. Mais le jeu moderne de l'épée devait forcément avoir le dessus. Le baron commença à ne plus voir clair dans cette suite d'attaques. Ses parades s'affolaient et ses ripostes partaient mal, n'arrivaient pas. Tout à coup, le chevalier fit une nouvelle attaque, gagnant un pas sur l'adversaire. Le baron voulut plus violemment éloigner l'épée, venue tout près de sa poitrine. Il écarta son bras, manqua l'épée adverse, se découvrit. Le chevalier fit une seconde attaque et se fendit. Son épée s'enfonça sous le bras droit du baron. La pointe sortit sous l'omoplate gauche. C'était le coup mortel. Le baron ne poussa même pas un cri. Il porta seulement sa main à son côté percé. Il regarda avec des yeux glauques d'effroi son adversaire, comme s'il avait conscience de sa mort. Puis il tomba à la renverse, retirant ainsi lui-même de son corps l'épée rougie du chevalier. Le chevalier jeta les yeux sur son ennemi à terre, puis, élevant son épée jusqu'à ses lèvres, il l'embrassa. « Grazia, » fit-il, « merci. » Il alla la déposer avec émotion sur son bureau. Mais quand il se tourna vers nous, il chancela, et fut tombé à terre lui aussi si Martin Humain ne s'était trouvé près de lui pour le recevoir dans ses bras. Le chevalier avait donné dans ce duel tout ce qu'un homme peut donner comme courage, comme résistance. Mais, épuisé par la perte de sang de sa blessure, il venait, avec la détente nerveuse, de perdre la notion de tout. Il était sans connaissance. Martin Humain me dit « Montons-le dans sa chambre. » Je pris le chevalier par les pieds, mon ami le soutint par le haut du corps, et avec toutes les précautions possibles, nous le montâmes dans ses appartements. Doucement, Martin Humain le déposa sur le lit, le dévêtit, tandis que le vieux domestique Pietro allait quérir de l'eau tiède, des linges pour faire un pansement, en attendant le docteur Gouget qu'un autre domestique alla prévenir. Ce fut un assez long et minutieux travail. Quand le bandage provisoire fut établi, que Martin Humain se montra rassuré sur le compte du chevalier, il pensa seulement à s'occuper de sa blessure à lui, du coup de poignard reçu à la cuisse. « Je commence, dit-il, à souffrir beaucoup. J'ai peur de ne pouvoir mener jusqu'au bout cette affaire. Je vais appeler Prosper et lui donner des ordres. » Il ouvrit la fenêtre et lança dans l'air deux coups de sifflet modulés de façon spéciale. Au loin, un sifflet lui répondit de même manière. Alors, Martin Humain, que j'aidais de mon mieux, commença à panser sa jambe. Le poignard de son adversaire était quadrangulaire. La plaie avait beaucoup saigné. Le caleçon, le pantalon, était plein de sang. Jusque sur les bottines et même à terre, le filet rouge se prolongeait. Vraiment, il fallait que cet homme fût héroïquement trempé pour avoir pu, avec cette plaie, rester debout pendant tout ce temps et accomplir simplement, sans que le chevalier pût soupçonner sa blessure, tout ce qu'il avait fait, pour pouvoir remonter, lui blessé, l'autre blessé jusque-là. Une fois de plus, je ne lui cachais pas mon admiration pour lui. Martin Humain se contenta de me dire « Le principal, mon cher, est que vous ne soyez pas blessé. Moi, ça n'a aucune importance. Ma peau en a reçu bien d'autres. Elle est très facile à recoudre. Vous verrez, le docteur Gouget s'en chargera. » Prosper arriva bientôt. Martin Humain et lui parlementèrent un court moment. Puis Martin Humain s'écria « Le chevalier pourra se plaindre plus tard, quand il sera rétabli. Mais nous ne devons pas laisser en bas chez lui le blessé et l'homme mort. Nous allons les emporter. Ils nous appartiennent. » Le baron est mort, mais mon adversaire parlera. Je crois que nous tenons enfin la clé de tous ces mystères sanglants. Martin Humain ne voulut pas attendre la venue du médecin. Il se déclara suffisamment solide pour descendre jusqu'en bas, dans la bibliothèque. vous ferez entrer les voitures dans le parc, dit-il à Prosper. Dans l'une, on mettra le corps du baron, qu'on transportera à la morgue. Dans l'autre, on hissera mon homme qu'on fera soigner à l'infirmerie du dépôt. Mais Martin Huma sentait malgré lui que l'usage de sa jambe allait lui faire défaut. « La douleur est plus forte que ma volonté, dit-il. Non, la douleur même, mais la force physique. Je ne commande plus à mon corps. Cependant, je veux aller en bas. » Je tendis mon cou. Prosper fit de même. Martin Huma, alors, passant un bras sur nos épaules, s'appuya sur nous et put, non sans souffrances atroces, descendre un à un les degrés de l'escalier menant à la bibliothèque. Là, un spectacle aussi tragique qu'inattendu nous frappa d'épouvante et d'anxiété. À terre se trouvait seulement un corps, le cadavre du baron. L'adversaire de Martin Huma avait disparu. Sur la table, près de l'épée victorieuse, sur une feuille de papier blanc, s'étalait une large empreinte sanglante, écrasée, épouvantable. Quant au corps du baron, il était étendu à terre. Les bras étaient ramenés sur la poitrine, passés l'un sur l'autre, formant le symbole de la croix de Saint-André, le X. Mais l'un de ses bras était coupé au poignet. La main manquait.